Bonjour à toutes et à tous, chers amis. Bienvenue à l'émission Top Gun de rentrée. Je suis ravi de vous retrouver alors que cette période de vacances a vu des mouvements très intéressants se déployer en bourse, notamment sur le cours du Bitcoin, dont nous aurons l'occasion de reparler mille fois. Mais je vous renvoie vers ma vidéo du début de l'été à ce sujet. Alors, chers amis, rentrée boursière, les cinq forces qui vont dicter la tendance. Je vous ai préparé une vidéo que j'estime qu'elle sera utile tout au long du mois de septembre, en fait, d'agenda expliqué, des grandes forces fondamentales qui vont agir et qui vont créer la tendance du marché action, mais aussi du marché obligataire ce mois de septembre. C'est en fait un peu une vidéo à laquelle vous allez pouvoir vous référer en permanence tout au long du mois de septembre. Si, je sais pas, le 10, le 15, vous vous demandez qu'est-ce qui arrive. Voilà, elle va être valable, en fait, finalement, tout au long du mois. Alors, au passage, j'en profite pour vous dire que, j'espère que vous allez bien, moi j'ai la patate, je reviens en grande forme, vous imaginez bien. Bon, oui. Alors déjà, dans mes vidéos, vous avez remarqué maintenant qu'il y a je coupe les silences. Les silences sont coupés, j'utilise un nouvel outil de montage pour que la vidéo soit plus dynamique, plus rapide, et puis que voilà les phases où je marque des pauses soient coupées, donc ce soit plus agréable pour vous. Si ça vous plaît, mettez-moi un petit like, comme ça je vais continuer à faire ça. Ça prend un peu plus de temps, mais voilà, au moins j'espère que c'est plus confortable pour vous. Donc dans cette vidéo, vous allez assister à, je vais donc vous parler de ces cinq forces fondamentales que je peux déjà vous résumer. Bien sûr, la Réserve fédérale des États-Unis, tout ce qui concerne l'inflation et l'emploi. Bien sûr, la crédibilité budgétaire US, les taux obligataires US, le cycle IA de la tech, la géopolitique, le prix du pétrole et bien sûr toute la macro américaine autour de la croissance et de la consommation des ménages. Le mois de septembre, il est sur tous ces aspects-là, surtout sur ces cinq forces, ces cinq catégories, ultra chargées. C'est pourquoi j'ai voulu donc vous en faire un résumé, d'abord dans l'ordre chronologique, du 1er au 30 septembre. Ensuite, par ordre d'importance. Dans cette partie sur l'ordre d'importance, je vais illustrer ce que j'estime être, bien sûr, les points les plus importants, sur lesquels je vais revenir plus en détail, tout au long du mois de septembre, notamment sur cette histoire des taux obligataires US et de la crédibilité budgétaire US. Probablement un élément où la Fed n'a pas totalement la main, elle agit plus sur les taux courts que sur les taux longs. Tout ça est passionnant. Bien sûr, un point technique de rentrée sur le S&P 500, sur certains secteurs et sur les taux d'intérêt. Taux d'intérêt US. Je vous avais fait une vidéo déjà en juin sur les taux, vous expliquant qu'on n'était pas loin des seuils de risque systémique. Alors, où en est-on? Est-ce qu'on s'en approche? Sommes-nous encore loin? Je terminerai cette vidéo du Top Gun par quelque chose de positif. Je ne peux pas, malheureusement, quitter comme ça ma personnalité, qui est celle du point de vue de l'optimiste. Et je vous présenterai quelque chose d'intéressant qui est assez favorable à la poursuite de la tendance haussière de fond en 2027. Alors, chers amis, bienvenue à cette nouvelle édition du Top Gun, édition de rentrée boursière, les cinq forces qui vont guider la tendance.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Allez go les amis, c'est parti. Bon, moi je suis content de vous retrouver. Il s'est passé plein de choses pendant mes vacances au vert, à la campagne, avec aussi un passage un peu dans la région des châteaux de la Loire. Et je vous conseille d'aller visiter les châteaux de Valençay et de Montrésor. Valençay étant le château à l'époque de Monsieur de Talleyrand, qui fut entre autres ministre des Affaires étrangères de beaucoup de régimes, mais notamment de Sa Majesté impériale Napoléon Ier. Donc, alors il s'est passé beaucoup de choses, il y a notamment eu un gros mouvement sur le cours du Bitcoin, sur les crypto-monnaies. En ce qui concerne le cours du Bitcoin, je vous invite à revoir ma conférence à Lausanne au mois de juin dernier, dont vous avez l'enregistrement vidéo sur la chaîne YouTube, vous expliquant que c'était un des trades asymétriques de cette année 2026, qui était l'année d'opportunité long terme, de bottom, marché des crypto-monnaies. Bien sûr, j'aurai l'occasion d'en reparler sur cette chaîne, de refaire le point quelque part au mois de septembre. Mais revenons à notre sujet, c'est la rentrée des classes. Avez-vous fait la liste de rentrée pour vos enfants? Avez-vous fait les fournitures scolaires? J'imagine que oui. Nous allons nous intéresser ici aux forces fondamentales. Agir sur les marchés boursiers, notamment sur le marché actions US, la rentrée boursière qui s'annonce passionnante à la fois sur le plan technique et fondamental, car jamais il n'y a eu autant de fondamentaux qui agissent ensemble. Pendant longtemps, c'est simple, c'était quelques stats américaines, la Fed. Là, quasiment à poids égal, quasiment à impact égal Et en plus, linké par de puissantes interactions, vous avez la Réserve fédérale des États-Unis et tout ce qui l'influence. Bon. Alors, les taux d'intérêt, bien sûr, ce n'est pas qu'un sujet aux États-Unis, c'est un sujet en Occident de manière générale, en France naturellement, avec d'ailleurs le 10 ans français qui est un poil au-dessus du 10 ans italien, bon, c'est ex aequo, c'est égal. Mais le sujet pour la finance mondiale, c'est la dette US et taux US, bien sûr, la géopolitique, le détroit d'Hormuz, le pétrole et tutti quanti. Et bon, la tech, le secteur de la tech, il y a beaucoup de résultats de la tech importants ce mois de septembre. Et sans oublier ce qui fait la vitalité de la croissance américaine, consommateur américain. Tout ça, ces cinq catégories vont être arrosées de chiffres et de statistiques tout au long du mois de septembre. Et donc, il faut bien comprendre ça, il faut en avoir conscience que ce mois de septembre fera probablement la tendance de fin d'année. Ces cinq grandes forces qui vont réellement piloter septembre en bourse, c'est ce dont je vais vous parler dans un nouveau mode. Donc, vous l'avez compris, puisque désormais je fais un peu plus de montage et je cut les phases de silence. Car on m'a reproché que mes vidéos étaient trop longues parfois, on est trop montant. Voilà. Mais donc là, j'espère que ça vous plaît. Si vous aimez un peu ce rythme plus rapide, voilà, tout n'est pas coupé. Je pourrais encore faire plus, mais bon, voilà. N'hésitez pas à me le dire, à me soutenir et à montrer surtout à mon hôte Swissquote que cela vous plaît. Bon. Les cinq grandes forces qui vont réellement piloter septembre. Je commence par ce premier slide. D'abord, c'est vous resituer ces cinq grandes catégories et que vous ayez bien conscience que ce mois de septembre les verra toutes concernées, toutes actives et parfois même au sein d'une même semaine. Alors, moi, j'en fais bien sûr un classement, mais en fait, beaucoup d'entre elles interagissent, d'accord ? Et la finance, d'un point de vue fondamental, maintenant, elle est complexe parce que moi, je me souviens, vous en souvenez forcément, c'était facile. Par exemple, la période post-mars 2020, qui est allée jusqu'à la fin de l'année 2021, c'était pas compliqué. Des programmes de quantitative easing, des taux à zéro, une grosse partie du marché obligataire avec des rendements négatifs. Voilà, bah, il suffisait de répéter ça chaque jour et le marché était en tendance haussière. Il n'y avait pas d'excès sectoriel particulier, etc., etc., pas d'excès de valo. Alors, si fin 2021, on s'est retrouvé en excès de valo, du coup, il y a eu le bear market de 2022, mais c'était pas compliqué. On comprenait bien les taux d'intérêt. Là, maintenant, c'est plus complexe que ça. Naturellement, la thématique des taux d'intérêt à long terme, ils étaient entre 0 et 1, les taux longs, en 2020-2021. Là, quand on est au-dessus de 5, ça picouille. Alors, il y a beaucoup de nouvelles thématiques. Donc, elles sont là, on les regarde. Donc, les cinq grandes forces. Alors, bien sûr, ça, c'est le slide introductif. Après, je vais rentrer dans les détails. Je vous ai indiqué ça tout à l'heure. Donc, bien sûr, la première grande force, la Réserve fédérale des États-Unis, avec une décision de politique monétaire de rentrée attendue le 16 septembre. Vous avez Kevin Warsh qui a parlé, qui a causé à Jackson Hole en fin de semaine dernière. Vous avez bien noté ce qu'il a dit et ça a fortement impacté les anticipations de politique monétaire pour septembre. Tout ça, bien sûr, fait que la Fed va rester influencée par, d'ici le 16 septembre, les chiffres de l'emploi, les chiffres de l'inflation, le NFP, le CPI, le PCE qui tombe à la fin du mois. Deuxième catégorie, je pourrais peut-être finalement les mettre à un niveau ex aequo parce que beaucoup se demandent qu'est-ce qui pourrait faire que les taux d'intérêt longs puissent, la partie longue de la courbe des taux d'intérêt puisse rebaisser. C'est finalement, la Fed a peut-être moins la main que la crédibilité budgétaire US. Il faut arrêter de déconner, les déficits budgétaires à 6%, à 7%, voilà, la dette publique explose, la charge d'intérêt, c'est gigantesque maintenant. Je crois qu'elle dépasse les 1000 milliards de dollars par an. C'est une partie énorme des recettes budgétaires maintenant, c'est gigantesque. Il faut arrêter ça. La dette publique US qui a dépassé les 40 000 milliards de dollars, elle était de 30 000 milliards de dollars il y a 5 ans. Bon, en tout cas, deuxième temps fort. Troisième point, alors il y a débat, est-ce que je mets celui-là en deuxième ou en troisième? Le cycle IA, la tech US, bien sûr, tout le monde sait que le S&P 500 est là où il est grâce au secteur de la tech, et il est là où il est au sein du secteur de la tech. Rappelez-vous, je vous expliquais à de nombreuses reprises les différentes industries que vous avez au sein du secteur de la tech, et notamment l'industrie des semi-conducteurs, mais aussi l'industrie des logiciels, d'ailleurs, superbe remont des logiciels. Je vous ai fait un point là-dessus il y a 2-3 semaines, voilà, et ça a bien marché. Bon, donc, typiquement, en septembre, vous avez les résultats de Broadcom, Oracle, Micron, Nvidia. Alors, ça a été publié fin août, mais ça impacte encore le marché, et puis de nouvelles indications sont attendues. Donc, voilà, les logiciels et les semis. Bien sûr, pétrole géopolitique, Iran, Moyen-Orient, pétrole, Hormuz, gaz naturel, etc. Et, bien sûr, toutes les indicateurs avancés sur la consommation américaine, l'état de santé du consommateur US qui fait la croissance US. Je dirais que celui-là, clairement, on le met en dernier. Après, il y a débat. Est-ce que la tech est plus importante que les taux longs? Mais en même temps, les taux longs peuvent un peu impacter la tech, finalement que marginalement, parce que ces boîtes font tellement de cash qu'elles s'en foutent hein, des taux à 5, 6, 10, 15 ou 30, peut-être pas 30, pas exagéré. Bon, le pétrole, la géopolitique, les anticipations d'inflation nominale, donc ça peut agir sur la Fed. Le pétrole, le prix du gallon, bon, s'il est trop élevé trop longtemps, ça peut finir par casser la consommation US. Donc tout ça est lié, mais il y a quand même des catégories. Voilà. Donc ça, ce sont les 5 grandes forces qui vont réellement piloter septembre. Et ce que je voulais vous dire, c'est que chacune de ces forces va voir de nombreuses mises à jour tout au long du mois de septembre. Il faut donc en avoir conscience. Alors, je vous ai préparé donc un schéma chronologique, ensuite un schéma par ordre d'importance, ensuite on fait le point technique, ensuite on fait plein de choses. Donc, liste chronologique de ces fameux temps forts fondamentaux. Donc là, alors l'idée, hein, je vous ai fait un répertoire date par date. L'idée, en fait, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est que cette vidéo-là, là, vous la regardez maintenant, ça me fait super plaisir. Si vous allez au bout, ça me fait encore plus super plaisir. Et si vous êtes content de le fait que maintenant je coupe les silences, c'est encore mieux, je suis content. Mais l'idée, c'est que voilà, là, vous pouvez regarder un morceau. Et puis, dans 3-4 jours, où on est à la fin de la semaine, vous vous dites, bon, ça y est, on attaque la seconde semaine de septembre. En fait, il y avait quoi déjà cette seconde semaine de septembre? Boum! Vous pouvez référer à ma vidéo. Ah oui, il y avait ça, ok, d'accord. Voilà, j'espère qu'elle va pouvoir. Bien sûr, je vais continuer à faire plein de vidéos d'ici la fin du mois. Donc, je vais à chaque fois revenir, rappeler. Mais voilà. Moi, vous savez, cette vidéo que j'ai fait, et là, tous ces slides que j'ai préparés, ça va me servir de guide tout au long du mois. Donc, j'ai aussi fait un peu pour moi. C'est un peu mon travail de rentrée. Donc, du 1er septembre au 30 septembre, c'est ultra chargé. Toutes ces données qui vont tomber appartiennent aux 5 catégories que je viens de vous montrer. Donc, par exemple, dès le 1er septembre, vous avez des chiffres de l'emploi américain. D'ailleurs, cette première semaine de septembre, vous avez notamment le rapport NFP-US. Donc, c'est le dernier rapport sur l'emploi avant la décision de la Fed. Vous avez le 9 septembre. Alors, attention, le 7 septembre, les marchés actions américains sont fermés. Le 9 septembre, vous avez le début de, vous savez, vous avez beaucoup entendu parler. D'ailleurs, l'information est tombée pendant mes vacances. Les buyback treasuries multipliés par 2. Le trésor public américain qui multiplie par 2, c'est rachat de dettes publiques US, donc sur le marché secondaire. Bon, c'est rien. Attention, c'est pas un tueur. Hein. C'est pas comme la Fed rachète des obligations à duration longue. Ça n'a rien à voir. Là, c'est plus pour assurer la liquidité du marché. Et d'autre part, les montants sont infimes par rapport au montant de la dette publique US. Mais quand même, à partir du 9 septembre, c'est le début donc de ce doublement des rachats de d'obligations longues par le Trésor public américain, pas par la Fed. Hein. Le 11 septembre, vous avez le CPI. Donc tout ça. NFP, CPI, le doublement des buyback treasuries, c'est avant la Fed. C'est avant la Fed du 16 septembre. Au passage, notez bien le 15 septembre, vous avez le vote au Sénat américain du Clarity Act. C'est la nouvelle réglementation crypto. Et une grosse partie de l'explication de la forte hausse du cours du Bitcoin pendant mes congés, c'est en grande partie l'anticipation de ce vote qui a lieu en session plénière au Sénat US le mardi 15 septembre, le Clarity Act. Le Clarity Act, je vous ai fait crypto, je vous en ai énormément parlé dans ma conférence à Lausanne en juin dernier, dont vous avez l'enregistrement sur la chaîne YouTube, et je vous ai refait une vidéo, je crois, début juillet, sur le fait que les cryptos étaient une opportunité de rentrer, et en grande partie en réinsistant sur le Clarity Act. Donc vous pouvez déjà revoir ces vidéos, je vais bien sûr, quelque part au milieu du mois de septembre, vous refaire une vidéo crypto de mise à jour. Pour faire un peu le suivi sur tout ça et voir où en est exactement donc Bitcoin d'un point de vue technique, d'un point de vue cyclique, ça viendra, chaque chose en son temps. Vous avez la Fed du 16 septembre, la BOJ du 18 septembre et sans oublier donc les résultats de Micron le 22 septembre, l'inflation PCE le 30 septembre. Bon, il y avait aussi les résultats de Broadcom, où est-ce qu'ils sont passés? Ah oui, pardon, vous avez Oracle le 10 septembre, donc vous voyez, excusez-moi. Vous avez donc de quoi alimenter ces 5 catégories dont je vous ai parlé en première partie. Donc ça, c'est l'ordre chronologique. Voilà, je voulais commencer par ça, mais c'est un slide, vous pouvez vous y rapporter. Voilà, typiquement là, on est en fin de semaine, ou je sais pas, imaginez, vous regardez pas la vidéo, elle sort le lundi, vous la regardez pas le lundi, vous la regardez en fin de semaine, et vous vous dites, bon, j'arrive après la bataille, il y a quoi encore la semaine d'après? Boum, vous allez sur ce slide, vous regardez. Ensuite, maintenant, moi, ce qui intéresse le plus, peut-être, c'est le classement. Donc, le classement par ordre d'importance de l'ensemble de ces statistiques. Classement par ordre d'importance, et je vais donc illustrer une sélection de ces chiffres. D'abord, bien sûr. Alors, il y a débat. Tout ça, bien sûr, c'est mon choix. Vous pouvez très bien mettre les taux d'intérêt devant, la dette US devant, les résultats de Micron devant, ou encore, peut-être, pour certains, ce qui est le plus important, c'est le détroit d'Hormuz. Chacun débat. Tout ça a un impact fort. Ensuite, le classement, c'est personnel, c'est subjectif. Ça peut s'appuyer sur des éléments objectifs, mais à la fin, c'est subjectif. Je mets en numéro 1, selon moi, sans hésiter, la Fed. la décision de politique monétaire de la Fed du 16 septembre, pour une raison simple, déjà parce que c'est la Fed, et pour surtout une autre raison, c'est que cette réunion du 16 septembre, donc là je suis sur le site de la Réserve fédérale des États-Unis, cette réunion du 16 septembre, elle est programmée ici avec un petit astérisque. Ça veut dire que vous avez non seulement le communiqué de presse, vous allez avoir la conférence de presse de Kevin Warsh, vous allez avoir, j'ai failli dire de Jérôme Powell, mais en même temps Jérôme Powell fait encore partie du FOMC, vous allez avoir la mise à jour des projections macroéconomiques, c'est-à-dire que la Fed va mettre à jour ce tableau dans lequel elle va donner ses anticipations en matière d'inflation, de croissance, d'emploi, et pour ses propres taux d'intérêt. Bref, les fameux dot plots. Nous allons savoir en fait si la Fed va monter les taux. Alors, avant les élections de mi-mandat, peu probable, 3 novembre, mais on va avoir quasiment la réponse sur ce que va faire la Fed d'ici la fin d'année, alors même si elle est, vous savez, data dependent. En tout cas, c'est la totale avec la Fed le 16 septembre. Donc, c'est pour moi le numéro 1. Ensuite, j'ai mis en numéro 2 et en numéro 3 l'inflation CPI du 11 septembre et le NFP du 4 septembre. Parce que pour moi, le raisonnement étant de dire que le rendez-vous le plus important du mois de septembre étant la Fed du 16 septembre, je mets juste après les données économiques qui sont publiées avant et qui vont décider de cette décision de politique monétaire de la Fed du 16. Je mets donc en numéro 2 le CPI du 11 septembre et le NFP du 4 septembre. Le NFP étant le rapport sur le marché du travail. En ce qui concerne le CPI, je vous rappelle que l'inflation core, quoi qu'en disent les collapsologues, elle baisse tout au long de l'été alors que le prix du pétrole s'est maintenu à un niveau élevé. L'inflation sous-jacente est passée de 2,9 à 2,5. Parce que la hausse du prix du pétrole, pour l'instant, n'impacte pas l'inflation profonde. Le chiffre qui va tomber ce 11 septembre, attention, si par exemple il augmente fortement, la Fed pourrait être tentée de monter les taux. En tout cas, il pourrait y avoir des votes en faveur, rappelez-vous, hein, au sein du FOMC, vous avez des membres votants, c'est pas Kevin Warsh qui décide, et la majorité l'emporte, et s'il y a égalité, ils sont 12, il y a 6 pour 6, c'est Kevin Warsh qui tranche. Mais donc, le CPI du 11 septembre, et notamment le CPI core, le minimum légal est bien sûr de ne pas avoir de rebond, et qu'on se maintienne vers 2,5, 2,6. Voire même que ça drop. Et là, c'est sûr que la Fed ne montera pas les taux. Vous avez ensuite le rapport NFP, où je vous rappelle que depuis 1, 2, 3, 4, 5 mois consécutifs, l'économie américaine crée chaque mois de moins en moins d'emplois. Là, ce sont les créations nettes d'emplois au status. Et on est même en négatif. Ça, c'est pas un cadre qui autorise une hausse du taux d'intérêt des fonds fédéraux. Et donc, ces deux chiffres sont publiés avant la Fed. Alors, en quatrième position, je mets le PCE. Le PCE, pourquoi ? Parce que c'est l'indice d'inflation favori de la Fed, mais je le mets qu'en quatrième parce qu'il est publié le 30 septembre, donc il n'impactera pas la décision du 16, mais il viendra clôturer le mois, si vous voulez. Ensuite, en cinquième position, alors là, il y avait débat. En cinquième position, vous pouvez mettre pétrole, Iran, Moyen-Orient. Okay. En cinquième position, vous pouvez mettre les résultats de Broadcom, Oracle et Micron, au même niveau. Bah parce que c'est le cycle IA, c'est la tech, c'est les logiciels, c'est les semi-conducteurs, etc. Bon. Moi, j'ai décidé de mettre juste après les stats inflation emploi à la Fed, j'ai décidé de mettre les taux longs US. Parce que nous sommes, ces taux longs américains sont proches, notamment pour la partie long terme de la courbe des taux d'intérêt, notamment le 30 ans US, proches des seuils de risque systémique. Je peux vous les montrer maintenant, mais je voulais surtout en faire j'en parlerai dans le niveau technique, j'en parlerai dans le point technique, mais vous le savez, la dette publique américaine a dépassé en août, les 40 000 milliards de dollars. Là, c'est un chiffre en retard. On était presque en juillet à 40 000 milliards de dollars. Ça a été dépassé. 40 000 milliards de dollars, maintenant, on est à quasiment, là aussi c'est en retard, hein, c'est sur 2025, on est à 130% du PIB américain. 130% du PIB américain, 40 000 milliards de dollars. Et surtout, le marché, ça fait maintenant quasiment 6 ans consécutive que le déficit budgétaire est entre 5 et 7%. C'est énorme. Là, on arrive à un moment où, avec un tel dérapage budgétaire qui s'enchaîne et une telle dette publique qui augmente, eh bien, le marché demande des taux d'intérêt beaucoup plus élevés pour prêter aux États-Unis. Et on arrive à un niveau où ça devient compliqué pour la soutenabilité de la dette US, avec une partie majeure du budget qui est absorbée par la charge d'intérêt, sans oublier que tous ces taux d'intérêt d'État impactent les taux d'intérêt des entreprises. Et notamment des plus fragiles, des plus petites. Je vais tout à l'heure dans la partie technique vous montrer l'analyse technique des taux US, des spreads de taux. Vous allez voir, ça peut être inquiétant, notamment pour la partie la plus profonde du high yield, où vous avez un écart entre le coût d'emprunt de ces entreprises-là et le Trésor public de 10 ou 11 points de pourcentage. C'est énorme. Un autre, pour des boîtes qui ne font pas forcément autant de cash que la tech, ça peut porter problème. Ça peut poser problème. Donc là, pour moi, c'est vraiment le, ça va être vraiment le, ce qui, et alors bien sûr, les émissions du Trésor américain, est-ce que la demande sera là? L'évolution chaque mois, les données du déficit budgétaire. En plus, les élections de mi-mandat arrivent. Imaginez si les républicains perdent la Chambre des représentants, il y aura à nouveau une quantité d'épisodes de shutdown. Enfin bon, tout ça peut créer, tout ça peut à un moment ou un autre agir sur le marché action négativement. Alors, ensuite, je mets bien sûr les résultats de la tech. Je mets pétrole Iran-Moyen-Orient après la tech. Je mets pétrole Iran-Moyen-Orient après la tech, c'est un choix personnel. Je vous ai fait, avant de partir en congé, une vidéo spéciale sur le pétrole, sur la volatilité implicite du prix du pétrole, sur les zones d'alerte, etc. Je vous invite à la reprendre. Mais si vous voulez, moi j'estime qu'il y a un processus de négociation qui a lieu dans l'ombre, qui avance, même si c'est compliqué, même si ça prend du temps. Grosso modo, on n'est pas au-dessus des 100 dollars, les choses restent sous contrôle. On n'est pas du tout, par contre, en zone désinflationniste au niveau du pétrole, mais je pense que le scénario du choc majeur reste écarté pour moi. Ça, c'est personnel. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai fait Fast and Forex sur le prix du pétrole avant de partir. Alors ensuite, vous avez donc les statistiques. Donc la BOJ, ça va être important le 18 septembre parce que la dette publique japonaise, les taux japonais, les investisseurs japonais qui peuvent revendre la dette extérieure pour aller sur les titres de dette japonais, etc. Voilà, des statistiques américaines de croissance d'emploi, ça c'est plus classique. Et je mets ici, donc je mets le Clarity Act crypto. Bon, ça c'est pour ceux qui s'intéressent à la crypto. Et moi ça m'intéresse beaucoup parce que vous êtes beaucoup, que j'y suis exposé, donc forcément voilà. Mais ça c'est un autre sujet. Donc ça c'est le classement par ordre d'importance. Je continue. Taux longs, comment stopper la hausse, effectivement. Là, ce sera, alors, ce sujet-là, je vais l'aborder plus globalement dans une prochaine vidéo Top Gun où j'essaierai de réfléchir à justement comment concrètement interrompre cette hausse des taux d'intérêt de long terme, du 10 ans américain, du 30 ans américain, où il faut bien vous dire une chose, c'est que le 10 ans américain reste en zone de tension, mais que le 30 ans américain est tout proche d'approcher la zone de stress financier. Et là, finalement, nous sommes clairement dans le sujet de la crédibilité budgétaire américaine. Et je dis, la première étape pour restaurer la crédibilité budgétaire américaine, c'est d'en terminer. Il faut retrouver un déficit budgétaire autour de 3-4%. Un déficit budgétaire autour de 3-4%, c'est le début de quelque chose. Là, sur du 6 ou du 7, voire même davantage. Alors oui, il y a beaucoup de choses à financer, et notamment les dépenses de défense. Avec le budget de la défense, je crois qu'il va passer de 900 à 1500 milliards de dollars. Mais à un moment ou à un autre, c'est pas tenable. Donc vous allez voir sur le plan technique où nous en sommes, et nous sommes pas encore en zone de stress financier, mais nous sommes en zone compliquée. Donc justement, regardons les choses sur le plan technique. Taux d'intérêt, spread, indice boursier, point technique de rentrée. Là, je vais vous montrer un certain nombre d'éléments. Première chose que je vais vous montrer, ce sont donc les taux obligataires à long terme. Pour illustrer les taux obligataires américains, je vais commencer donc par le 30 ans américain. Le 30 ans américain, c'est vraiment la partie longue de la courbe des taux d'intérêt. Et vous voyez, en fait, ce qui est, alors, on peut y voir une divergence. C'est peut-être un piège. Mais justement, le premier signal d'alerte, il était donné dès avril 2022. Vous voyez, hein, c'est, en fait, avec la crise sanitaire, l'inflation post-Covid, etc., je vous rappelle que les taux longs, en fait, ont quitté 40 ans de tendance baissière. Et ça, c'était en 2022. Et là, en fait, ce qui stresse le marché cet été, c'est que on est en train potentiellement de dépasser ce seuil d'octobre 2023. Et que si ça, en fait, soit là, c'est un vrai breakout. Et regardez, nous sommes revenus au niveau de 2007. Hein, quasiment 19 ans en arrière pour les taux longs. 5,22. Le seuil d'entrée en zone de stress financier, c'est ce que montrent les études. Tout ça, c'est basé sur des sondages réalisés auprès des entreprises. C'est 5,5. On est à 5,22. Donc en fait, là, en gros, soit c'est un vrai breakout, ça accélère, et là, je vous dis, le marché action va s'en manger une, et notamment les petites boîtes. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ou c'est un piège. C'est un piège. D'ailleurs, c'est pourquoi le gouvernement américain a annoncé là, avec Scott Bessent, le doublement des buybacks. Alors, c'est pas un QE, hein, c'est pas un achat d'obligations d'État comme le QE de la Fed. C'est pour assurer la liquidité du marché. C'est un rachat. C'est le doublement des rachats par le Trésor public US. C'est pour un peu agir sur les taux et aussi assurer la liquidité du marché. Mais les montants, c'est rien. La taille des rachats est passée de 2 milliards à 4 milliards. C'est la taille maximale. 40 000 milliards de dollars, la dette publique US. Donc 2 à 4 milliards, c'est pas grand chose. Mais tout ça montre, c'est un signal politique qui est envoyé au marché. Attention, on est là et on veut pas que ça monte davantage. Enfin, nous, gouvernement américain. Donc, si là c'est un piège et qu'on réintègre, bah, le point haut aurait été fait. Et il y a intérêt à ce que ça réintègre parce que là, je vous remonte qu'ici les seuils, vous êtes ici sur le 30 ans américain, je vais enlever le système Ishimoku qui au passage joue bien. Là, vous voyez, c'est ce seuil dont je vous ai parlé. On est passé au-dessus donc en août. Soit c'est un vrai signal de breakout et ça accélère et c'est chaud. Par contre, si jamais on réintègre ce niveau, en fait, lorsqu'on casse une résistance, mais si on la réintègre, c'est que c'était un bull trap. Si c'est un bull trap, on va repartir au sud violemment. Et pour ça, il y a besoin de raisons fondamentales pour que les taux longs diminuent. Bon, je ferai une vidéo spéciale dessus, mais concrètement, crédibilité budgétaire américaine, une désinflation confirmée ou un emploi US qui se détériore, c'est-à-dire un ralentissement de la croissance US. Voilà. C'est ça. Alors, le prix du pétrole, je le mets dans la désinflation. Voilà, ce sont les trois catégories qu'il faut. Mais je pense que de plus en plus, c'est la crédibilité budgétaire US. Alors, est-ce qu'avec l'administration Trump, on peut avoir une crédibilité budgétaire lorsqu'on a un déficit budgétaire de 6 ou 7% alors qu'il faudrait du 3-4? En tout cas, d'un point de vue technique, moi, je vais vraiment surveiller ça. Est-ce qu'on réintègre ce seuil ou est-ce qu'on le réintègre pas? Je vous invite aussi à surveiller les spreads. Attendez, je vous montre un spread. Là, je vous montre, c'est le spread entre le taux US, le 10 ans américain, qui fait référence, c'est benchmark, quoi, et le coût d'emprunt de la partie la plus profonde des entreprises catégorie high yield, les plus risquées, qui ont le bilan le moins solide. 10 points de pourcentage. Alors, on a déjà fait pire. On a déjà fait pire, notamment au moment de la crise commerciale, on était monté à 11 points de pourcentage, mais la dynamique n'est pas bonne. C'est, voilà, on arrive ici. Alors, bon, là, vous voyez, 2020, la crise sanitaire, etc., on était monté à 19 points de pourcentage. Mais là, à mesure que le temps passe, Et si vous voulez, si on commence à dépasser ces seuils-là, remonter vers le 11, 12, 13, 15 points de pourcentage, c'est le spread, hein. C'est-à-dire que le coût d'emprunt moyen des entreprises high yield pour la partie profonde high yield, c'est 10 points de pourcentage de plus que le taux du gouvernement US. Ces entreprises, ce sont les moins solides, ce sont celles pour qui chaque point de pourcentage de plus en coût d'emprunt les impacte fortement. Et derrière, bah, ça peut les casser. Qui dit les casser, bah, casser l'emploi. Qui dit casser l'emploi, casser la consommation. Qui dit casser la consommation, casser la croissance. Voilà. Donc, là, il n'y a pas encore une envolée verticale, mais il y a, mois après mois, une situation bullish qui représente un problème. Ce spread est à surveiller, le triple C. Et c'est pour ça que le gouvernement américain commence un peu à s'alarmer et on va voir un peu comment la Fed essaie de répondre à ça en septembre. Donc ça fait partie des indicateurs ultra importants à surveiller. Bien sûr, vous avez aussi le 10 ans américain. Le 10 ans américain, lui, type, n'a pas dépassé son sommet ici d'octobre 2023, mais qui est donc en zone de tension entre 4,50 et 5,50. Je vous remonte les zones. C'est entre 4,50 et 5,50, c'est la zone de tension. 5,50, c'est la zone de stress financier. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les études réalisées par Bloomberg auprès des entreprises. C'est une moyenne. C'est une moyenne. Voilà. Donc, mais le 30 ans américain, lui, on est quand même plus proche, sauf si finalement il réintègre ce seuil et que c'était un piège et qu'il s'agissait d'un piège. En ce qui concerne l'indice S&P 500, eh bien, je n'ai rien de plus à vous rajouter. Enfin, si. Alors, le S&P 500, pour l'instant, quand j'enregistre cette vidéo, et c'est le discours que je vous tenais avant de partir en vacances et tout au long du mois de juillet, la tendance de fond reste haussière tant qu'on ne casse pas de support. La tendance de fond reste haussière tant qu'on ne casse pas de support sur les graphiques de long terme. Donc, sur le graphique mensuel, aucun support n'est cassé, il n'y a pas de divergence. Sur le graphique en données hebdomadaires, il y a une petite divergence ici, mais elle n'est pas active tant qu'on ne casse pas ça. D'autre part, le support hebdomadaire, il est à 7580. Donc, voilà, peut-être que ça va casser. Tout ce que je peux vous dire, c'est que tant qu'en hebdomadaire, on ne casse pas 7580, je suis sur le contrat futur S&P 500, tant qu'en hebdomadaire, on ne casse pas 7580, c'est haussier. Si on casse 7580, et ben là, on retracera en direction des 7350. Voilà. Mais pour l'instant, on peut pas. Quand il y a des divergences, c'est un signal d'alerte. Il faut être attentif. La tendance faiblit un peu, mais c'est l'action des prix qui drive. Et tant qu'on casse pas de support et tant qu'on n'active pas la divergence, ça tient. Donc pour l'instant, retenez, haussier au-dessus des 7580 à moyen terme, baissier si on casse. Pour ce qui concerne le court terme, le support court terme, c'est 7640 et la moyenne mobile ici à 50 jours, 7650. Et vous voyez bien que quand j'enregistre cette vidéo, bah regardez, on est posé sur le support. Voilà, donc si on casse ce support, pour moi, il n'y a pas de problème. On revient ici, on revient tester cette zone. Voilà, si on casse ce support en daily, 7650, on reviendra tester cette zone. J'y ajoute les enseignements du système Ishimoku. On reviendra tester le Kumo, vous voyez, cette zone support. Voilà. Donc, ce sont les niveaux sont là, mais bon, tant que vous n'avez pas une clôture journalière qui casse ce support, il n'y a pas de signal de vente. Voilà, en tout cas, nous en sommes. Quand donc j'enregistre cette vidéo sur le contrat futur S&P 500, et je termine par une lueur d'optimisme pour l'année 2027, en vous reparlant du fameux cycle présidentiel américain, et en vous rappelant en fait que ce cycle, il est documenté, il est puissant, il est statistique, et surtout, on a beaucoup d'années de recul. Ce que l'on sait, c'est que, qu'il s'agisse d'ailleurs, peu importe, d'un président républicain ou d'un président démocrate, c'est que la troisième année du cycle présidentiel, elle est la plus puissante, avec un return moyen de 13,96%, qui écrase sans problème le return de la première année, de la deuxième année. Donc là, 2027 sera la troisième année du cycle présidentiel, la troisième année d'élection donc de Donald Trump. Alors, en général, c'est lorsqu'on a un président démocrate que c'est encore plus performant, mais peu importe, c'est aussi assez performant avec un président républicain. Et vous avez donc, dans le cadre d'un président républicain, vous avez 91% des troisième années du mandat qui ont été haussières. Donc c'est vrai que cette troisième année du cycle présidentiel, cette troisième année présidentielle, que l'on peut ici décrire sous la forme d'un cycle, le cycle dit présidentiel, eh bien cette troisième année est celle qui est la plus forte. Alors je vous montre la statistique pour ceux qui attendent de longue date le krach boursier, ceux qui rêvent du krach boursier de longue date. Je vous dis attention, vous avez contre vous le cycle présidentiel en 2027. Il n'y en a pas davantage. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne rentrée à toutes et à tous.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.